Voilà. Bonjour bien-aimés. Jésus, nous te levons plus haut, n'est-ce pas? C'est lui le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il est notre Dieu. Jésus, nous te levons plus haut. Seigneur, nous te bénissons et nous te célébrons car tu es notre Dieu. Merci pour la grâce. Merci pour ta bienveillance. Merci parce que en toi, nous sommes ce que nous sommes, des enfants de Dieu, sauvés par grâce. Ce n'est ni le fruit de nos bonnes œuvres, ni le fruit de nos qualités. C'est toi qui as payé le prix en Jésus-Christ parce qu'aucun de nous n'était digne de se racheter lui-même. Et je me réjouis de ce que tu as croisé notre chemin parce que ta parole dit que toi, comme ça nous l'a été rappelé ce matin dans la parabole du fils prodigue, tu es toujours à la recherche de ceux qui s'ouvrent à toi, qui te cherchent. Tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Et merci parce que tu nous as trouvés, tu nous as tendu la main, tu nous as attirés à toi, tu nous as justifiés, tu nous as sanctifiés, et tu as fait de nous tes enfants. Quel privilège et quelle grâce. Te bénissons, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous réjouissons encore ce matin d'être dans la présence de notre Dieu, de pouvoir le célébrer, de pouvoir lui être agréable, dans le sens où le culte est une obéissance à Dieu, bien-aimé. Lorsque nous célébrons le culte, nous obéissons à notre Dieu. Et c'est une grâce et c'est un privilège à la fois. Donc merci Seigneur pour cette grâce et ce privilège. Depuis plusieurs semaines, nous sommes dans cette méditation dans le livre d'Apocalypse. Et peut-être avant d'aller plus loin, pendant que je préparais ce culte et que la semaine s'écoulait, que nous avons été ensemble mardi à la réunion d'études bibliques, ensuite le jeudi au jeûne et prière, et puis ce samedi les femmes dans leur moment ensemble, les hommes, une pensée s'est quand même imposée à moi et j'aimerais vous la partager. Avons-nous une profonde représentation de l'identité de Dieu? Savons-nous apprécier l'immensité du Dieu dont nous parlons, bien-aimés? Je vous invite juste peut-être à faire cela après. Cherchez les dimensions de l'univers. Regardez sur toutes les recherches, leurs moteurs de recherche, regardez dans les dictionnaires. Cherchez les dimensions de l'univers. Et vous pourrez avoir une petite idée de l'immensité de Dieu. Parce que l'univers est sa création. Donc ça veut dire qu'il est plus immense que l'univers. Donc, si vous arrivez à trouver des éléments précis sur la dimension de l'univers, ça vous donne une idée de l'immensité de Dieu. J'ai demandé pardon à Dieu cette semaine. Parce que quelquefois, en tant que chrétien évangélique, avec la grande liberté qu'il nous a donnée, parce qu'il nous appelle ses enfants et qu'il est notre Père, nous perdons de vue que finalement, ce Dieu dont nous parlons, il est vraiment immense, il est grand. Et même quand nous lui partageons nos petits besoins de chaque jour, il est attentif, alors que il gère l'univers et tout ce qui nous ne connaissons pas. Et pourtant, la Bible dit qu'il est attentif à chacune de nos demandes et même de nos soupirs. C'est une vraie tension pour moi de voir que c'est un Dieu Regardez les hommes d'État les plus puissants. Pour les approcher, c'est presque impossible. Il faut prendre rendez-vous, je sais pas, une année avant. Et même, c'est pas garanti que vous puissiez les rencontrer en tant que simple citoyen. Et ils sont puissants, n'est-ce pas? Imaginez-vous Dieu dans cette même posture. Mais en même temps, imaginez-vous qu'il est accessible 24 heures sur 24. C'est incroyable, bien-aimé. Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Rendons l'adoration à Dieu. Rendons la reconnaissance à notre Dieu. Quand nous adorons Dieu, faisons-le avec un profond respect pour ce qu'il est. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il est le créateur de l'univers. Il est le Dieu tout puissant. La Bible dit que tout ce qui est créé, visible ou invisible, est la marque de Dieu. Et qu'au-dessus de Dieu, il n'y a personne. Et pourtant, la Bible dit qu'il est amour et qu'il a créé l'homme à son image. Incroyable. Que Dieu nous aide alors. Faites ce petit exercice. Cherchez les dimensions de l'univers. Ensuite, j'aimerais lire en Deutéronome chapitre 1. Bien sûr, cette méditation sera une série aussi de l'Apocalypse pour continuer. Mais je la veux en deux temps. Après ce partage de cette pensée forte qui s'est imposée à moi, j'aimerais lire avec vous Deutéronome chapitre 30 que nous avons lu lors de ce jeûne et prière jeudi dernier. Et j'aimerais lire à partir du verset 11 avec vous. Deutéronome 30, verset 11. Je le lis dans la version du Semeur. Le code de loi que je vous donne aujourd'hui n'est certainement pas trop difficile pour vous, ni hors de votre portée. Il n'est pas au ciel pour que l'on dise « Qui montera au ciel pour aller nous le chercher et nous le faire comprendre afin que nous puissions l'appliquer ?» Il n'est pas non plus au-delà de l'océan pour que l'on dise « Qui traversera pour nous les mers pour aller nous le chercher et nous le faire comprendre afin que nous puissions l'appliquer ?» Non, la parole est toute proche de vous. Elle est dans votre bouche et dans votre cœur pour que vous l'appliquiez. Voyez, je place aujourd'hui devant vous, d'un côté, la vie et le bonheur, de l'autre, la mort et le malheur. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie. Vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par l'Éternel, votre Dieu, dans le pays où vous vous rendez pour en prendre possession. Mais si votre cœur se détourne de lui, si vous refusez de lui obéir, et si vous vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous préviens dès aujourd'hui que vous périrez à coup sûr. Vous ne vivrez pas longtemps dans le pays au-delà du Jourdain où vous vous rendez pour en prendre possession. Verset 19, « Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. » Jusque-là, la parole du bien-aimé. Ce texte de Deutéronome 30 et celui de Deutéronome 28 nous présente un Dieu bienveillant, un Dieu bénissant, un Dieu dont le projet pour nous n'est qu'un mais un Dieu qui est juste devant le fait que le péché est rentré dans le monde, qui ne peut pas laisser impuni la désobéissance et le refus de Dieu. Et l'homme est placé dans cette tension. Et Dieu le sait, et Dieu le dit clairement dans ce texte. Il ne nous cache rien. Il dit, à cause du péché, aujourd'hui, j'ai placé devant vous la vie et le bonheur, et donc la bénédiction, mais aussi la mort et le malheur et donc la malédiction. Mais il dit aujourd'hui, ce que je vous propose de choisir, choisissez la vie, choisissez le bonheur, choisissez la bénédiction. Et comment on choisit cela? Ben, il est dit très tôt, dans ce chapitre 30, à partir du verset 11, c'est d'obéir à Dieu. Obéir à ses commandements, obéir à ses ordonnances, rentrer dans le projet de vie de Dieu. Nous qui sommes les croyants, nous y sommes entrés. Depuis le jour où Jésus s'est révélé à nous, depuis le jour où nous avons fait la paix avec Dieu, nous sommes rentrés dans ce projet. Il nous l'est garanti par Jésus-Christ. Mais Dieu se plaît à nous rappeler parfois ces choses, comme un bon pédagogue, n'est-ce pas? Parce que le peuple d'Israël aussi avait tissé alliance avec Dieu. Et pourtant, combien de fois le peuple n'a pas obéi à Dieu? Que Dieu nous aide, bien-aimés. Nous avons besoin de nous appuyer sur notre Dieu. Nous avons besoin de renouveler notre alliance dans notre cœur avec notre Dieu. Nous avons besoin de lui redire assez fortement, non seulement avec une conviction, mais dans notre vie pratique, que nous avons choisi la vie, que nous avons choisi le fait que nous souhaitons qu'il nous bénisse et que nous refusons d'être sous sa malédiction et donc nous refusons de désobéir, nous refusons d'être en porte-à-faux avec la parole de Dieu. Parce que ce que nous voyons depuis quelques dimanches dans le livre de l'Apocalypse, justement, il nous annonce les malheurs qui vont frapper le monde parce qu'il refuse, justement, de s'attacher à Dieu, parce qu'il refuse de reconnaître Dieu. Et donc, ce matin, nous allons continuer notre méditation dans l'Apocalypse. Nous étions, la semaine, il y a 15 jours, dans le chapitre 8, et nous avions, en ce moment-là, regardé un peu ce chapitre 8. Les sept trompettes que nous regardons depuis. Comment ces jugements, Dieu les montre à Jean. Et pour faire un petit récapitulatif, les quatre premières trompettes que nous avons vues avaient affecté quatre domaines de la création de Dieu. La terre, la mer, les sources d'eau douce et les cieux. Et nous avons vu qu'il s'agissait d'un jugement limité de Dieu. Parce que c'était un tiers à chaque fois de cette création que le jugement de Dieu détruisait. Donc il restait encore deux tiers pour montrer que c'était un jugement limité et que Dieu, au travers de ce jugement, interpellait l'homme à revenir à lui. Est-ce que l'homme l'entend? C'est la question que nous pose l'Apocalypse. Ces calamités, ces quatre premières trompettes, comme je l'avais dit, n'ont frappé que le tiers à chaque fois de cette création. La grêle et le feu sur la terre, une montagne jetée dans la mer en feu, une grande étoile tombe sur le fleuve et sur les sources et leur transmet un poison qui les rend amers et empoisonnés. Le soleil, la lune et le soleil s'obscurcissent, un phénomène météorologique, et toutes ces choses ont pour conséquence de compliquer la vie des hommes. De les rendre, même si eux, les hommes, sont pas touchés directement, mais subissent les conséquences de ce jugement qui tombe sur la nature. Et nous avons fait un parallèle avec ce que nous vivons aujourd'hui. La pandémie qui nous frappe nous affecte directement ou indirectement. Le réchauffement climatique dont on parle affecte bien nombre de pays, et nous subissons aussi les conséquences, même ici, et nous voyons comment ces saisons qui étaient si bien réglées sont déréglées depuis. Parfois, on hésite à dire, ça c'est le jugement de Dieu. Moi, je n'en sais rien. Je sais que Dieu parle de ces choses dans sa parole, et que, in fine, Dieu étant le maître des temps et des circonstances, ces choses qui arrivent ne lui échappent pas. Et même si Dieu n'est pas acteur direct, si Dieu laisse faire, il y a une bonne raison. En tout cas, il me semble que c'est au moins pour que les hommes prennent conscience de leur fragilité et qu'ils puissent revenir à Dieu. Aujourd'hui, nous lirons le chapitre 9, 1 jusqu'à 12. Nous sommes dans la cinquième trompette. Je lis, toujours dans la version du semeur, chapitre 9 de l'Apocalypse, verset 1. Puis, le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis un astre qui était tombé du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Il ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée épaisse s'en éleva, comme celle d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée qui s'échappait du puits. De cette fumée sortit des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Il leur fut donné du moins un pouvoir semblable à celui des scorpions. Elles reçurent l'ordre de ne pas faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucune plante verte, ni à aucun arbre, mais de s'attaquer seulement aux hommes qui ne portent pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné, non pas de les tuer, mais de les torturer pendant 5 mois. La douleur qu'elles causaient ressemblait à celle qu'une pucule de scorpion inflige à un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Ils l'appelleront de leur vœu, mais la mort les fuira. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux harnachés pour la bataille. Elles avaient sur la tête comme des couronnes d'or, et leur face ressemblait à un visage humain. Leur chevelure était pareille à celle des femmes, et leurs dents à celles des lions. Leur thorax paraissait cuirassé de fer, et le bruit de leurs ailes évoquait le fracas d'une charge de char tirée pour le combat par de nombreux chevaux. Elles avaient des queues armées de dards comme celles des scorpions. C'est avec leurs queues qu'elles pouvaient torturer les hommes pendant 5 mois. Elles avaient pour roi l'ange de l'abîme qui s'appelle en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici, 2 malheurs encore viennent après lui. Je l'ai dit, bien-aimé, quand nous lisons ces textes, lisons-les pas dans un esprit catastrophique, apocalyptique, comme on aime à le dire, mais voyez toujours la grâce de Dieu qui avertit avant que son jugement n'arrive. Parce qu'il fait œuvre de pédagogie pour que le maximum d'êtres humains puissent échapper aux conséquences du péché que lui, Dieu, qui est juste, doit juger. Là, l'image que nous avons, l'étoile qui tombe du ciel, Jean dans cette révélation, souvenez-vous que c'est une vision que Jésus donne à Jean. Donc dans cette vision, il voit une étoile qui tombe du ciel. De quoi s'agit-il? Et cette étoile qui tombe, parfois dans les versions, il est dit un ange qui tombe, reçoit la clé du puits de l'abîme. De quoi s'agit-il, bien-aimé? Qui est cette étoile? Quand on regarde bien et quand on met ce texte en parallèle avec les thèses de l'Ancien Testament, notamment dans l'Exode, notamment dans les prophéties des prophètes comme Joël, comme Amos, on voit que Jésus aussi le dit. On voit que cette étoile, en fait, c'est le diable, c'est Satan. Que va-t-elle faire cette étoile, cet ange qui est libérée par Dieu? Elle va recevoir une clé, et cette clé va lui permettre de libérer du puits de l'abîme une puissance destructrice, une puissance immorale. Elle, cette puissance, s'appelle Abaddon, Apollyon. Et ces deux termes, que ce soit en hébreu ou en grec, veulent dire destructeur. Cette étoile, cet astre, est un destructeur. L'être qui est représenté ici dans cette vision que Jean a est du même bord que cette image des sauterelles. Et quand on regarde bien le texte, c'est une image que l'apôtre Jean a. Il voit des sauterelles, mais en fait, ce ne sont pas des sauterelles naturelles. Ce ne sont pas des sauterelles, ce ne sont pas des insectes. Puisque il leur interdit de détruire les herbes, les arbres et les plantes vertes. C'est ce que les sauterelles mangent. Donc, pour dire que l'image qui est prise ici n'est pas une image de sauterelle naturelle, mais l'image de la sauterelle dans cette vision, c'est l'image de la destruction. Je ne sais pas si vous avez vu un nuage de sauterelles destructeurs. En fait, dans les temps anciens et même aujourd'hui, et il y a un mois de cela, il y a un pays africain qui a subi une invasion de sauterelles et de criquets. En fait, on peut rien faire contre ces essaims. On peut quasiment rien faire. Et quand ils se multiplient, c'est vraiment de gros nuages sombres. Et quand ils s'abattent sur une région, ils détruisent littéralement les récoltes. Et ils le détruisent en un temps record. C'est fulgurant. Et dans le passé, ils ont été la cause de bien des famines, de bien des malheurs. Et dans l'Exode, l'Égypte en a fait les frais aussi. Et Joël en parle aussi dans la révélation qu'il a. Et c'est cette image de destruction que Jean voit au travers de ses souterrains. Il va avoir une destruction terrible. Cet ange, on dit qu'il est tombé du ciel. Or, Jésus, dans l'évangile de Luc, il déclare, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Et c'est la même image, puisque c'est Jésus qui donne cette révélation à Jean. Donc, clairement, il s'agit du diable qui est tombé du ciel. Et le fait que le texte dit qu'il est tombé, c'est sa chute en fait. Hein? Dieu l'a déjà déchu. Et c'est dans cette disgrâce, comme le dit aussi un texte de l'évangile, qu'il est animé de cette rage. On dit car le diable, il vient pour égorger et détruire. Il n'a aucun projet de bonheur. Il n'a aucun projet de vie. Il n'a aucun projet de bénédiction. Rappelez-vous Deutéronome 30. Il n'a aucun projet de vie. Il n'a aucun projet de bénédiction. Il n'a aucun projet de bonheur, le diable. Il s'appelle Abaddon. Il s'appelle Apollyon. Il s'appelle le destructeur. Son cahier de charge, sa seule identité, son seul travail. Regardez bien. Le texte dit qu'il a donné le pouvoir pas de toucher à la nature, mais de toucher aux êtres humains. Malheureusement, cet astre tombé du ciel a pour seul objectif, seule ambition de détruire les hommes. Il ne peut pas, dans le sens, il ne peut pas les tuer, puisque le texte dit qu'il leur a donné le pouvoir, mais de le faire souffrir atrocement. Quand vous regardez toute la description de ces sauterelles, c'est vraiment une description effrayante. Le fait qu'il dit, c'est des chevaux, ils sont comme des chevaux harnachés. Vous savez, les chevaux, dans ce temps ancien, faisaient peur. Les chevaux de guerre faisaient peur. Parce que c'était des chevaux qui étaient entraînés pour vraiment porter des cavaliers destructeurs. Il dit qu'ils étaient comme cuirassés de fer. Et que leurs ailes étaient comme des fracas de charge. Donc, toute cette description montre qu'il s'agit d'éléments très destructeurs. Et pourtant, je vous ai dit, quand vous lisez ce texte, regardez la lueur qu'il y a à chaque fois, même dans ces jugements. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel. Comme pour dire, quand on est en Jésus, Satan n'a aucun pouvoir sur ceux qui sont en Jésus. Et le texte le dit, il a te donné l'ordre de s'attaquer à tous ceux qui ne portaient pas la marque de Dieu sur leur front. L'ennemi, le diable, et tous ces démons, puisque les sauterelles sont l'image des démons qu'il va déchaîner, n'ont aucun pouvoir sur le chrétien. N'ont aucune portée de vie ou de mort sur le chrétien. Non, Dieu ne leur permet pas cela. Et le texte dit clairement dans ce jugement. Verset 4. Elle reçut l'ordre de ne pas faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucune plante verte, ni à aucun arbre, mais de s'attaquer seulement aux hommes qui ne portent pas le sceau de Dieu sur leur front. Et quand nous lisons Apocalypse chapitre 7, ceux qui portent le sceau de Dieu sur leur front, c'est tous les enfants de Dieu rachetés. Depuis Israël jusqu'à tous les chrétiens, donc l'Église plus largement. La clé de l'abîme qui lui est donnée, l'abîme ici, c'est la représentation de là où vit le mal, là où vit ceux qui font le mal. Donc, premièrement, les démons, les anges déchus. C'est évidemment une représentation figurative, puisqu'on ne sait pas où c'est. C'est comme quand la Bible dit, Dieu est au ciel, Et la modernité a fait dire, bah vous dites Dieu au ciel, maintenant nous on va jusque sur des on va jusque sur la lune, et même on est là au-delà de la lune, on n'a pas vu votre Dieu. Littéralement à la lettre, le fait qu'on dit que Dieu habite au ciel, non, ça veut dire que Dieu habite un espace que nous ne pouvons pas atteindre. Le jour où nous le verrons, il nous dira où il habite. Mais quand on dit Dieu habite au ciel, ça veut dire qu'il habite une hauteur que nous ne pouvons pas atteindre. Mais en même temps, la Bible nous dit qu'il est omniprésent. Donc, il est partout. Il est partout. Donc, cette image qui nous dit ici qu'il a libéré les démons du puits de l'abîme, parfois dans certains films, ils ont fait cette représentation où les démons sortaient d'un puits, du fond d'une abîme et tout. C'est, n'oubliez pas, c'est des représentations. C'est pour dire simplement que les démons, ils habitent dans un espace, ils vivent dans un espace qui non seulement est sous le contrôle de Dieu, mais qui est loin de là où Dieu a vie. Est loin de là où Dieu vit, parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu. Si l'abîme, c'est le tréfonds de la terre, et que le ciel, c'est au-dessus, c'est pour juste marquer le fait que Dieu ne cohabite pas avec ses anges déchus. Et que, on va le voir dans la suite du texte, que Dieu va les juger aussi et va les condamner pour l'éternité. C'est une guerre spirituelle. C'est une guerre spirituelle. Ce jugement représente une guerre spirituelle que Dieu va permettre pour que les hommes, une fois de plus, réalisent qu'il n'y a que lui qui peut les protéger. Il n'y a que lui qui peut être leur protecteur et la source de leur vie. Et cette guerre, nous le savons, elle fait rage. Depuis que Jésus est rentré dans le monde, elle fait encore plus rage. Souvenez-vous que Jésus lui-même, il a été aux prises dans cette guerre. Le diable a essayé, mais il a échoué. Luc chapitre 4, le diable a essayé de le tenter, mais en vain. Jésus a été victorieux de lui. Que Dieu nous aide, puisqu'il nous avertit, puisqu'il nous prépare pour que nous ne puissions pas tomber sous ce jugement bien-aimé. L'image d'une armée de sauterelles avançant comme un nuage assombrissant le ciel. On le voit, je l'ai déjà dit dans le prophète Joël, le fait que ces sauterelles dévorent non pas la végétation, mais s'en prennent aux êtres humains, ça montre que ces sauterelles sont une image qui représente plutôt des esprits du mal, donc des démons. Mais le peuple de Dieu est protégé, n'est-ce pas? Les sauterelles sont la représentation de cette force démoniaque qui sort de l'abîme, mais duquel le peuple de Dieu est protégé spirituellement. Les tourments qu'ils infligent à leurs victimes sont si grands que les victimes réclament la mort. L'auteur, donc Jean nous dit que cette détresse n'est pas pour l'éternité. Cette action du diable et de ses démons n'est pas pour l'éternité. Il donne symboliquement une durée de 5 mois. Certains spécialistes disent qu'en fait, les sauterelles ont une durée de vie de 5 mois. Donc, l'image que Jean a est une image tellement concrète parce qu'elle associe et l'image de la sauterelle et le cycle de vie de la sauterelle. 5 mois. Mais en même temps, ça dit que c'est dans le temps, que c'est limité. Ce tableau nous donne une image de tout ce que l'ennemi peut faire comme influence immorale, de toutes les influences exercées par les démons. Si vous ne croyez pas que les démons existent, ne croyez pas Jésus, puisque Jésus les a confrontés. Si les démons n'existent pas, c'est que Jésus est un menteur, puisque les évangiles nous disent qu'il les a confrontés, qu'ils ont même demandé à Jésus de ne pas les faire partir dans l'abîme. Et que Jésus a exorcisé des gens, il a chassé des démons. Et que les démons, quand ils possédaient des personnes et que Jésus était au contact de ces personnes, ces démons eux-mêmes disaient, pourquoi es-tu venu avant le terme pour nous troubler, avant le temps que Dieu a fixé pour nous détruire? Et Jésus disait, taisez-vous, libérez ces êtres humains, car ils sont sous ma responsabilité. Bien-aimés, Nous avons ici une image de la puissance surnaturelle et terrifiante de Satan et du monde démoniaque, particulièrement par rapport aux incroyants, à ceux qui ne croient pas Dieu. Et malheureusement, c'est eux qui ne croient pas aux démons. C'est eux qui ne croient pas à l'influence des puissants du mal. Mais quand on dit ça, c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'il y a une partie des incroyants qui croient et qui sont même des pratiquants. Il y en a qui s'appellent des adorateurs de Lucifer. Il y en a qui s'appellent des adorateurs de Satan. Il y en a qui sont dans plein de sciences occultes où ils fricotent avec des démons. Clairement, il y a des émissions sur des chaînes à succès qui parlent de phénomènes para-supranaturels. Donc, quelque part, notre monde est quand même conscient que cet espace existe. Par contre, le chrétien n'a pas à chercher à savoir ces choses. Parce que Jésus, c'est lui que nous cherchons. C'est lui qui est notre environnement. C'est lui que nous devons rechercher. C'est vers lui que nous devons porter toute notre attention. Et en le faisant, bah, la victoire est à nous. Elle est acquise. Et nous le voyons bien ici. Ce jugement n'atteint pas les croyants. Ce jugement n'atteint pas les chrétiens. Dieu interdit à Satan et aux démons de toucher à tous ceux qui portaient la marque de Dieu sur leur front. Donc à tous les croyants, à tous les chrétiens. Mais le monde est livré à qui? Au prince de ce monde. Et Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Et le prince de ce monde, malheureusement, c'est l'ennemi de la foi. C'est Satan, c'est le diable. Et là, il va être déchaîné. Et il est déchaîné. Parfois, vu qu'il était l'astre de lumière, il s'est bien trompé, n'est-ce pas? Il s'est bien se faufiler dans des choses qui semblent être bonnes, et derrière, malheureusement, au nom d'une certaine définition de l'amour, on voit tout ce que l'amour humain porte aujourd'hui comme conséquence dans la vie des gens. Moi, je suis toujours peut-être très naïf, mais je me dis, parfois dans nos rues, surtout ici en Occident, en France, on dit Paris, la ville de l'amour, les gens sont toujours en train de manifester des signes d'amour, et 3 jours après, bah, ils sont plus ensemble. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? De quel amour on parle finalement? Bah, il me semble qu'on parle d'un amour qui est plutôt l'amour qui utilise l'autre, qui fait de l'autre un objet de ma convoitise. Hein, comme j'aime bien un bon repas, bah, l'autre est une bonne personne que je veux pour un temps. Après, bah, je serai rassasié, je chercherai un autre repas. C'est ça l'amour? Et voilà comment l'ennemi agit. Dans cette influence immorale, et il fait souffrir. Combien de femmes, combien d'hommes ne veulent plus se marier, bien-aimés? Parce qu'ils disent, bah, finalement, on se fait souffrir. Combien de cœurs brisés? Combien de foyers brisés? Combien de familles recomposées? Et si on n'est pas alerté pour voir là que quand même il y a une influence démoniaque? Vous savez, l'influence démoniaque n'est pas toujours quelqu'un qui semble ressembler à quelqu'un qui a des cornes ou avec une queue à fourche, qui déboule dans la rue avec une flamme de feu autour de lui. Non. L'influence démoniaque, c'est quand nous prenons des chemins qui sont diamétralement opposés à ceux de Dieu et des chemins qui nous font souffrir. Et on a vu dans le texte le rôle de ce astre et de ces démons, c'est de faire souffrir l'être humain atrocement. Avec Caroline, je dis, parfois les médias, je ne sais pas, à force de chercher l'audimat, ils focalisent sur une histoire. Depuis plusieurs jours, on nous parle d'un certain Jonathan Daval. On en a fait des épisodes. Comment on peut faire des épisodes de quelqu'un qui a tué sa femme, qui l'a... Oh, Jésus. Et on en reparle, et on en reparle, et on en reparle, et on en reparle. C'est quoi cette société? L'amour a produit la torture. J'imagine même pas ce que cette femme a pu souffrir avant de mourir. J'imagine même pas, bien-aimé. Je peux pas imaginer. C'est de ça que nous parlons dans ce texte d'Apocalypse 9. Il est déchaîné. Donc, si vous pensez que le diable et le démon, c'est juste dans une sphère mystique, pas que. Il a une vraie action, il a une vraie influence destructrice sur l'être humain. Dans tout ce que Dieu crée, lui crée la contrefaçon, et avec cette contrefaçon, il détruit, il fait souffrir, il terrorise. Mais ils n'ont aucun pouvoir sur ceux qui portent le nom de Dieu sur leur front. Ils n'ont aucun pouvoir. C'est pour ça qu'être chrétien, c'est un privilège, bien-aimé. C'est une grâce incommensurable. La Bible dit que nos vies sont cachées en Dieu. Non, nos vies sont cachées en Christ et Christ en Dieu. Et je veux terminer sur cette note, sur ce verset. Ce verset dit clairement, verset 4, donc la fin du verset 4, mais de s'attaquer seulement aux hommes qui ne portent pas le sceau de Dieu sur leur front. Nous qui sommes des chrétiens, la Bible dit que l'Esprit de Dieu nous a marqués du sceau de Dieu. Nous sommes appelés enfants de Dieu et nous crions Abba Père. Nous sommes les enfants de Dieu. L'ennemi n'a aucun pouvoir. Il peut encore, oui, nous piéger, il peut encore nous tenter, il peut encore nous influencer, il peut encore faire des pressions, mais la victoire elle est toujours à nous. Si nous revenons dans le Seigneur ou si nous nous investissons dans la prière, nous reprenons notre victoire sur ces pièges, sur ces influences, sur ces pressions. Et ce texte nous le montre clairement. Parce qu'il n'a aucun pouvoir de vie et de mort. Celui qui a le pouvoir de vie, Deutéronome chapitre 30, Dieu dit, je mets devant toi la vie et le bonheur. Je mets devant toi la bénédiction. Choisis la bénédiction. Et tu sais quoi faire? C'est d'obéir, de marcher selon la parole de Dieu. L'influence démoniaque qui s'exerce sur les gens qui rejettent Dieu engendre immoralité, corruption, violence, barbarie et autres vices qui sont cause de bien des souffrances et de bien des tourments. Souvenons-nous pourtant, et Jean le souligne clairement, qu'ils ne peuvent tourmenter les croyants comme ils le font les autres humains. Ils ne peuvent pas nous tourmenter. S'il nous arrive, ça peut être une pression, ça peut être une attaque spirituelle, nous avons qu'à revenir dans la prière, prendre autorité, et Dieu fera le reste. Prions. Te bénissons, Seigneur. Merci pour ce temps. Que cette parole puisse nous aider à être avertis, mais à être sereins, à être rassurés, car nous avons la bonne part. Nous sommes avec le Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui du reste est notre Père, celui qui prend soin de nous, celui qui nous protège, celui qui nous garde dans le creux de ses mains, celui qui met devant nous la vie, le bonheur et les bénédictions. En Jésus-Christ. Amen.